Midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Ma mission ne change pas, vous le savez, hein, vous montrez chaque jour qu'il y a des hommes et des femmes qui se battent pour que la société de demain soit différente. Et cette crise que nous traversons ensemble est une occasion de voir que les valeurs qui nous permettent d'y arriver sont d'ores et déjà là, à commencer par la solidarité et l'altruisme. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec ceux qui ont mis les bouchées doubles pour se mettre à fabriquer des respirateurs ou des pièces pour qu'on puisse les assembler. À mes côtés, pour nous éclairer toute cette semaine, c'est Aurélien Fleurot qui m'accompagne de loin, bien sûr. Bonjour Aurélien.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Oui, depuis mon sous-sol avec un petit coin bureau aménagé où je passe beaucoup de temps depuis 3 semaines.
Bon, eh bien écoutez, moi je suis à la table de la salle à manger finalement pour le 12h-14h, c'est assez logique. Et puis on vous attend vous aussi, hein, 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte si vous voulez réagir, témoigner ou poser une question, vous êtes évidemment les bienvenus. Alors on le sait aujourd'hui, pour pouvoir porter assistance aux malades atteints du Covid-19, il faut, dans les cas les plus sévères, les placer sous ce qu'on appelle l'assistance respiratoire. Avant cette crise, il y en avait quelques 5000 en réanimation, auxquels il fallait aussi ajouter des systèmes un peu plus légers pour les soins intensifs. Mais en vérité, il n'y avait pas vraiment de chiffre officiel de recensé. Quoi qu'il en soit, avec l'afflux de patients, c'est insuffisant. Il faut donc produire davantage. Emmanuel Macron a donc annoncé la création d'un consortium autour d'Air Liquide pour passer à la vitesse supérieure et en produire 10 000, consortium auquel participe justement Valeo. Bonjour Geoffrey Boucaud.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le directeur de la stratégie au sein du groupe. Quand on dit passer à la vitesse supérieure, ça signifie que tout le monde se met au diapason, y compris vous. Vous avez donc constitué une équipe qui ne va faire que ça, c'est-à-dire venir approvisionner en pièces Air Liquide qui va fabriquer.
Écoutez, oui, pour Valeo, c'est une cinquantaine de personnes qui sont mises à contribution au sein de ce groupement. En effet, comme vous l'avez dit, c'est un défi industriel très important puisqu'il s'agit de produire 10 000 respirateurs en un mois et demi, soit une multiplication par 10 de la capacité de production.
Alors justement, Aurélien, vous nous dites un mot supplémentaire sur ce consortium. Qu'y a-t-il à l'intérieur ?
Oui, donc 3 groupes vont apporter leur expertise pour accompagner Air Liquide et atteindre cet objectif de 10 000 respirateurs fabriqués d'ici au 15 mai. Il y a le constructeur PSA, l'équipementier auto, on vient de l'entendre, Valeo, et puis Schneider Electric, spécialiste en gestion de l'énergie. Chacun va donc apporter quelques dizaines de salariés au sein de ce consortium et de ce projet commun qui est baptisé Respirateur 10 000. En plus du site d'Antony dans les Hauts-de-Seine, où Air Liquide est en train déjà de tripler ses capacités de production, PSA a mis en place un atelier d'assemblage au sein de son usine de Poissy dans les Yvelines. Schneider Electric va apporter également des experts en performance industrielle pour essayer d'augmenter au mieux les capacités ou même parfois même lancer d'autres lignes de production. Donc avant l'épidémie, c'était environ 250 respirateurs fabriqués par mois en France, donc par Air Liquide. Mmh. Et avec ce consortium, cette montée en puissance, ce sera plus de 1000 par semaine.
Oui, donc on voit bien qu'on passe hein, effectivement à la vitesse supérieure. On dit respirateur, mais on oublie de dire effectivement que derrière cette machine, hein, Geoffrey Boucaud, il y a des savoir-faire et des pièces différentes, de milieux différents. Vous avez la technologie en tant qu'équipementier pour construire ce qui est en plastique et puis les petites pièces mécaniques ou électroniques, c'est ça ?
Tout à fait. Pour Valeo, mettre à contribution ses compétences ou ses métiers issus du secteur automobile, c'est vraiment sous 4 axes. Le premier pour Valeo, c'est apporter son soutien dans l'organisation de la chaîne logistique. Donc c'est faire venir sur le site de production d'Antony les 150 composants nécessaires à la fabrication de ces respirateurs et dans des délais les plus courts possibles. Le deuxième, sur le plan industriel, Valeo va mettre à disposition donc des équipes industrielles pour pouvoir aider à la construction des lignes de fabrication à forte cadence. Et ensuite, effectivement, Valeo, sous le troisième angle, met à contribution ses experts dans les métiers de l'électronique, du plastique, de l'impression 3D. Et enfin, également, Valeo met à disposition une vingtaine de techniciens et d'opérateurs pour pouvoir produire ces respirateurs.
Oui, c'est-à-dire que vous intervenez finalement à plusieurs phases de la fabrication du projet global.
Tout à fait, depuis l'aval jusqu'à l'amont et dans l'ensemble donc pour pouvoir produire ces respirateurs.
Combien de pièces vous allez pouvoir fournir, vous, Valeo, aujourd'hui pour assembler ces respirateurs à Air Liquide ?
Alors aujourd'hui, Valeo directement ne fournit pas des pièces. On est en capacité d'en produire si besoin, s'agissant de pièces électroniques et plastiques, oui, notamment. Là, l'enjeu vraiment pour Valeo, c'est d'apporter sa contribution industrielle, donc concevoir la ligne de fabrication à très forte cadence, et également de pouvoir pour Valeo donc aider dans l'organisation de la chaîne logistique. Donc prendre et aider Air Liquide à s'assurer que l'ensemble des pièces et des composants qui viennent du monde entier arriveront sur le site pour pouvoir produire ces respirateurs.
Mais si vous deviez en produire, vous seriez à même de le faire éventuellement, hein, c'est ce que vous nous dites.
Tout à fait.
Alors, on l'a vu, Air Liquide, c'est le géant français qui va construire le produit fini, mais derrière, on vient de le voir, il y a d'autres entreprises, effectivement, qui sont en ordre de bataille, des grosses comme des petites. C'est le cas chez Somocap. Bonjour Fabrice Orouet.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous, vous êtes dans le sud-ouest, hein, et vous êtes connu pour fabriquer au départ des pelotes basques, mais pas seulement, d'autres pièces aussi en plastique ou en caoutchouc. Or aujourd'hui, vos marchés habituels, on va dire, ne tournent pas vraiment, donc vous avez pris la décision de mettre votre savoir-faire au service de la collectivité. Vous fabriquez des joints d'étanchéité et aussi des boîtiers en plastique pour les fameux respirateurs dont on est en train de parler.
Alors effectivement, nous sommes experts en technologie de transformation de plastique, caoutchouc et matériaux composites. Donc la pelote basque, ça doit représenter à peu près 0,5% de notre chiffre d'affaires. Notre métier, c'est de produire des pièces techniques pour les différents acteurs de l'industrie, donc aéronautique, médical, ferroviaire, etc. Et dans notre panel de pièces, il y a effectivement un certain nombre de composants qui entrent dans les respirateurs, pour lesquels on travaille soit en rang 1, soit en rang 2, donc on fournit les pièces de manière directe ou indirecte à Air Liquide notamment et à d'autres acteurs des respirateurs.
Oui, ça n'a pas été simple, hein, je crois. Il a fallu convaincre les salariés de venir travailler. Vous êtes aujourd'hui combien? Une trentaine à la production?
Alors, sur mon cap, c'est 48 personnes. Il y a une trentaine de personnes qui travaillent en production. Donc effectivement, au début de la crise liée au Covid, on n'est pas d'abord passé par une phase de réduction d'activité, puisqu'un certain nombre de nos clients principaux ont fermé. Donc il nous a fallu réduire la voilure dans un premier temps. Mais en contrepartie, nos clients respirateurs ont, eux, augmenté leur cadence. Du coup, il a fallu pour nous, effectivement, maintenir une production à minima pour fournir ces clients-là. Et bon, c'est sûr que vu la période de psychose auquel on a dû faire face, voilà, il a été nécessaire de mobiliser chaque salarié face à leur peur. Mais bon, sachant qu'il s'agissait de respirateurs, tout le monde s'est mobilisé et a répondu présent assez rapidement.
Oui, et maintenant, il y a de grosses commandes qui arrivent, hein, notamment du côté des États-Unis. Vous arrivez à fabriquer plusieurs milliers de pièces, je crois, par jour, c'est ça?
Alors, effectivement, en fait, il faut savoir se reconfigurer chaque jour, puisqu'on est passé d'une vision de réduction d'activité à maintenant une situation où il nous faut augmenter notre capacité de production malgré toutes les contraintes liées à la gestion du virus. Donc chaque jour, en fonction des afflux de commandes que l'on a, on se réorganise et effectivement, on se met en capacité à répondre au mieux à la fourniture de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de pièces. Là où, comme l'intervenant précédent l'a précisé, on était plutôt dans quelques centaines à quelques milliers de pièces.
Oui, Geoffrey Boucaud qui est toujours avec nous, qui est directeur de la stratégie au sein du groupe Valeo. Geoffrey Boucaud, justement, on voit que finalement toutes les entreprises, hein, quelle que soit leur taille, sont mises à contribution parce que chacune a une spécificité qu'elle peut éventuellement tordre un peu pour se mettre au service du collectif et fabriquer autre chose.
Oui, c'est vraiment une grande fierté pour tous et depuis une quinzaine de jours que l'ensemble des industriels et qui se sont mis autour d'une table et se sont dit il faut relever ce défi, on voit bien que l'ensemble des acteurs ne compte pas ses heures, ni ses jours, ni ses nuits d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, ni ses jours, ni ses nuits. J'imagine que c'est la même chose chez vous, Fabrice Orouet.
Oui, tout à fait. Il faut vraiment changer les habitudes, innover, bouger dans tous les sens pour pouvoir répondre au mieux. Nous, on ramène même quelques pièces à la maison le soir pour faire des opérations de finition manuelle, puisqu'il y a quelques pièces où il y a besoin de petites mains pour finaliser les pièces. Donc même les enfants participent. Voilà, on met tout le monde à contribution face à cette période de crise. Il faut savoir travailler de manière exceptionnelle aussi.
Oui, il faut savoir se serrer les coudes et vous nous montrez justement cet exemple à suivre. Merci d'avoir été avec nous. Je voudrais me tourner vers vous, Aurélien. On a parlé du consortium français. Il y en a d'autres, des consortiums comme ça qui sont en train de se mettre en place à travers le monde pour fabriquer des respirateurs?
Oui, il y a justement un consortium en Grande-Bretagne qui est assez spectaculaire. C'est une alliance entre Thales, Airbus, Rolls-Royce, Microsoft et 7 écuries de Formule 1, dont McLaren notamment. Et là, comme en France, l'objectif, c'est de fabriquer 10 000 respirateurs le plus vite possible. C'est pour aider ces quelques leaders mondiaux qui en fabriquent. Alors, il y en a en Allemagne, le groupe Lowenstein, qui a doublé sa production depuis 2 semaines. En Suisse, Hamilton Medical. On peut citer également quelques Américains, GE Healthcare, ResMed et Medtronic. Mais la filière, elle est évidemment en tension partout dans le monde. Donc, ces consortiums sont évidemment très, très utiles.
Et toutes les bonnes initiatives sont à prendre, évidemment. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Il est 13h16.
Europe 1.
Quand on parle fabrication d'appareils d'assistance, il faut aussi penser à ceux et celles qui les fabriquent. Et vous allez voir que tout le monde, mais quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde s'y met. À tout de suite.
Raphaël Duchemin.
En cette période de crise, c'est vrai, on manque de bras, mais pas de bonnes idées, vous allez le voir. La preuve avec les initiatives des PME qui sont avec nous aujourd'hui encore et qui n'ont pas hésité à mettre leur activité au service de tous. C'est le cas de Volume. Bonjour France Desjonquières.
Bonjour Raphaël Duchemin.
Merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir. Vous êtes PDG de cette entreprise spécialisée dans la fabrication additive métallique. Alors en temps normal, vous travaillez pour les pièces de moteur de fusée pour Ariane par exemple. Hein. Avez mis vos salariés de Seine-Maritime en production pour réaliser une valve à la demande, je crois, du CHU de Rouen. Comment ça s'est passé?
Alors, en fait, vous m'appelez, je suis sur le site de production. Nous sommes effectivement, nous nous sommes mobilisés à la PME normande en tant que spécialistes et travailleurs dans l'urgence pour les instances décisionnaires type DGA ou pour les sachants soignants. Et on a élaboré en fait une valve sur notre initiative que nous testons en fait auprès de ces soignants. Ça, c'était la première étape et nous sommes sur le sujet bientôt depuis 3 semaines. Et nous sommes en phase de test, en fait. Et deuxièmement, il y a une grande approche, telle celle d'Air Liquide en début de réunion, où nous sommes sollicités par les instances décisionnaires, au travers de la DGA, DGE, pour réaliser des pièces en fabrication additive, 3D, aussi bien d'ailleurs métallique qu'en plastique. Voilà. Ça, c'est la réponse, en fait, parce que nous sommes référencés au niveau national et que nous avons fait, comme société en impression 3D, nos preuves. Pour l'aéro, le spatial, et puis pour beaucoup d'autres sujets, y compris même le domaine du luxe.
Oui, puisque vous fabriquez aussi des pièces pour les flacons, notamment pour LVMH, je crois.
C'est ça. Étant positionné dans la Glace Vallée en Normandie, on travaille pour les marques et on aide au développement des nouveaux flacons de parfum ou de boîtiers cosmétiques. Donc la mobilisation, là, sur le site, oui.
Oui, je parlais de cette demande qui émanait du CHU de Rouen parce que je pense que eux ont un besoin très spécifique qui vous est remonté, c'est cette valve pour adapter sur les fameux masques dont on a beaucoup parlé, les masques de Decathlon, hein, les Easy Breath.
C'est ça, et Easy Breath, c'est ça, qui sont en fait qui nécessitent des pièces de raccord et sur lesquelles on a travaillé donc des pièces possiblement étanches, mais avec un côté écologique et en fabrication rapide. C'est pour ça qu'on les a travaillés en métal, mais on les met aussi en œuvre pour les donneurs d'ordre en plastique. Et la partie métallique, en fait, on la travaille en matière soit inox et possiblement aussi une réalisation en titane. Vous savez, tout ce qui est biomédical et qui est donc réutilisation de l'outil et stérilisation.
Oui, ça peut être stérilisé et c'est ça le gros avantage. Ça n'est pas une pièce jetable. On peut s'en resservir une fois que ça a été stérilisé. D'où l'avantage du métal.
C'était la volonté, effectivement, de proposer à la demande des soignants pour avoir des pièces plus durables qui, évidemment, donnent une contrainte, celle d'être stérilisée donc pour la mise en œuvre. Mais évidemment, on n'est pas sur le jetable. Et ça sollicite donc des mises au point qui sont en cours de test. Voilà. L'idée, c'est ce sont eux qui savent, les soignants, de quoi ils ont besoin maintenant. Et c'est pour ça qu'on développe à leur côté.
Alors, vous dites aujourd'hui ou demain, on devrait sortir les premières. C'est ça, vous m'avez expliqué tout à l'heure que vous étiez en phase de test. Mais ça y est, la production est...
Alors, on est en attente sous 24 heures, soit de production en pièces polyamide plastique, auquel cas ce serait la solution retenue pour mobiliser notre capacitaire industriel pour réaliser ces pièces sur tous nos moyens, process et faire ces valves. Et là, on serait sur des capacités de 2000 à 2500 pièces semaine. Et sur la partie, ça c'est la fabrication additive plastique, et sur la partie métallique des valves de respirateurs, sur les modèles que nous sommes, sur lesquels nous sommes en test, qui ne sont pas encore homologués, nous avons une capacité de faire à peu près 700 pièces à la semaine. Ce qui est déjà considérable, oui. Sachant que nos machines tournent très peu par ailleurs sur des demandes courantes, puisque tous les projets sont suspendus, si vous voulez, dans l'industrie, pour nous concernant, en tout cas la plupart, et on a en fait, on attend un go en fait pour réaliser.
Go qui doit venir de qui ?
Eh bien, nous sommes en relation avec des équipementiers aussi bien aéronautiques que dans l'automobile. Donc,
voilà. Oui, vous restez avec nous. On va vous prendre encore quelques minutes si vous le voulez bien, parce que derrière la fabrication d'un respirateur, il y a évidemment, et on l'a compris, hein, des tas de spécialistes qui entrent en jeu. Bonjour Julien Payen.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président directeur général de Lattice Médical. C'est le CHU de Lille, vous, qui vous a demandé de réfléchir avec eux à ce que vous pouviez faire, parce que vos machines peuvent fabriquer des circuits jetables de respirateurs, c'est ça?
Donc c'est ça, effectivement, comme mon homologue vient d'expliquer tout à l'heure. Donc Lattice Médical, nous, à la base, on a une société qui fabriquons des implants, pour donc des dispositifs médicaux, par impression 3D, notamment pour la reconstruction mammaire. Et aujourd'hui, on a arrêté les projets pour l'instant pour dédier l'équipement d'impression 3D à la demande du CHU de Lille. Il s'est créé un groupe il y a 15 jours, sur la semaine du 23 mars, afin de répondre en fait à ces besoins, notamment donc sur les fameux respirateurs, afin de développer des valves, des bouchons, des raccords qui peuvent servir sur ces dispositifs. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est évidemment de récupérer les cahiers des charges techniques des pièces, de remodéliser les outils et de les faire tester. Donc pareil, il faut que ce soit stérilisable et réutilisable. Et pour nous, c'est un point qui est encore en test.
Oui, vous avez récupéré, ça y est, je crois, des plans en 3D. Vous êtes en train de voir comment vous pouvez fabriquer à grande échelle. Hein.
Tout à fait, c'est ça. Alors nous, très modestement, on a une petite capacité de production parce qu'on fait de l'implant, c'est pas du marché de masse. Mais effectivement, sur ce groupe qui rassemble des universitaires, d'autres industriels, on met en commun, en fait, ce consortium met en commun les différentes forces pour répondre à ces demandes.
Aurélien, on parlait à l'instant des masques EasyBrief de Decathlon. C'est vrai que ça avance pas mal et ça intéresse pas mal de monde. Je crois que vous avez trouvé une initiative du côté de Cherbourg aussi.
Oui, cela vient d'un technicien en mécanique à l'ESSIX, l'école d'ingénieurs de Cherbourg. Il a travaillé sur cette valve donc qui permet de relier le masque aux appareils médicaux. Et après quelques essais, notamment parce qu'avec les petites imprimantes 3D, ce n'était pas forcément idéal pour y parvenir, il a réussi à faciliter donc l'impression 3D de cette valve que l'on peut rajouter à ce fameux masque de plongée. Decathlon en a fait don de 30 000, d'ailleurs, ils l'ont annoncé ces derniers jours. Donc ça a été utilisé à Cherbourg, mais l'idée, c'est de permettre à tous les hôpitaux qui en auraient besoin, d'en profiter pour imprimer eux-mêmes cette pièce.
France Desjoncaires, vous êtes toujours en ligne avec nous, PDG de l'entreprise Volume. Vous êtes effectivement spécialisé dans la fabrication additive des pièces métalliques. Vous avez le sentiment que cette crise-là, elle va considérablement chambouler finalement votre activité, ou une fois qu'elle sera passée, finalement tout va revenir à la normale?
Alors ça, c'est notre grand espoir. L'espoir, c'est effectivement la repenser dans toute la chaîne industrielle. Nous, on est effectivement, nous PME, grands demandeurs d'une considération de l'outil géolocalisé à proximité. Et c'est toute la force de la fabrication additive quand elle se mobilise jusqu'à la production de pièces, parfois de pièces séries, quand c'est possible, quand la géométrie le permet, de la pièce. Mais oui. Ça, évidemment, l'industrie, on attend évidemment qu'il y ait un changement de nos donneurs d'ordre et nous de nous adapter. Bien sûr, on a cette agilité pour s'adapter, on l'espère, à cette grande réforme qui sera l'après Covid-19.
Même chose pour vous, Julien Payen, même idée derrière la tête.
C'est moi. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de voir finalement toute la puissance que peuvent avoir tous les makers en France et ce shift finalement dans la production. Et ça me rassure de voir qu'il y a beaucoup d'initiatives et que peut-être que demain, on fera un peu plus confiance à la souveraineté nationale et à la production française.
Merci à tous les deux d'avoir été en direct avec nous et bon courage et merci pour ce que vous faites pour nous et pour aider les personnes qui sont atteintes en ce moment du Covid-19. Il est 13h27.
Europe 1.
Quelle que soit la taille de l'entreprise, toutes les mobilisations sont bonnes à prendre pour fabriquer en un temps record les pièces nécessaires à ces fameux respirateurs. A tout de suite sur Europe 1.
Raphaël Duchemin.
Quand on décide d'allier des compétences, on va les chercher à des endroits auxquels on ne s'attend pas toujours. C'est le cas chez Michelin. Bonjour José Cocovi.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le directeur de la division qui fabrique les moules chez Michelin. Michelin qui est connu évidemment dans le monde entier pour la fabrication de pneumatiques. Et vos usines ont été mises à contribution dans la lutte contre ce Covid-19. Vous aussi, aujourd'hui, vous travaillez dans le fameux consortium dont on parlait tout à l'heure, hein, avec Air Liquide. Ce qui manque, et c'est là où vous intervenez, ce sont des capteurs de début. Qu'est-ce que c'est, ces capteurs de début ?
Alors oui, comme vous le savez, dès mi-mars, notre président Florent Ménégaud a mis à disposition nos moyens d'impression 3D au service de la lutte contre le Covid-19. Et ça nous a donné l'occasion de créer une dizaine de coopérations, dont la coopération avec Air Liquide, dont vous venez de parler. Et en fait, c'est des capteurs de débit qui permettent de mesurer le débit d'air qui est insufflé chez les patients.
Alors, ces capteurs, c'est une pièce très spéciale qui est essentielle au bon fonctionnement de l'appareil ?
C'est une pièce qui permet effectivement de contrôler tous les paramètres, et je ne suis pas médecin, donc je répète ce qu'on m'a dit, qui permet de mesurer les paramètres d'insufflation, et qui est une pièce qui est fabriquée de manière très rapide grâce à l'impression 3D, puisque ces pièces étaient en pénurie puisqu'il fallait créer de nouveaux respirateurs. Et l'impression 3D nous a permis de passer très rapidement de l'étude de la pièce à la fabrication de cette pièce, qui permet donc de rapidement mettre à disposition de nouveaux respirateurs.
Ouais, c'est pas votre cœur de métier que de fabriquer des capteurs de débit, on est bien d'accord. Comment on fait justement pour se lancer dans une nouvelle création, une nouvelle fabrication qui n'est pas une fabrication habituelle?
Il faut en fait que l'ensemble des acteurs, qu'ils soient internes chez Michelin ou les personnes avec qui on travaille, se coordonnent très rapidement. Et ça s'est fait quelques jours après l'annonce du confinement. Et les gens, depuis chez eux, ont investi énormément de temps et d'énergie et de passion pour la conception des nouvelles pièces et trouver des moyens de production qui soient rapides et qui permettent donc de produire ces nouveaux respirateurs si essentiels.
Donc, combien de pièces est-ce que vous allez pouvoir fabriquer et dans quel délai ?
Alors, aujourd'hui, après la mise au point et les tests de ces pièces, nous apprêtons à fabriquer quelques milliers de pièces.
Quelques milliers de pièces en combien de temps ?
Sur des délais de quelques semaines.
Oui, avec le fameux concours de l'impression 3D. Aurélien, justement, la 3D, on le voit, vient au secours de pas mal de choses en ce moment, hein, la fameuse communauté des makers.
Oui, effectivement, vous avez la PHP qui vient d'ouvrir sa première unité d'impression 3D. C'est au sein de l'hôpital Cochin. Une soixantaine de machines ont été installées et donc des milliers de pièces de matériel médical, dont certaines, bien évidemment, pour les respirateurs, pourront être fabriquées et envoyées dans tous les hôpitaux qui en ont besoin. Et puis, il y a énormément d'initiatives personnelles du côté d'Arcachon, un passionné de nouvelles technologies, Frédéric Bonin. Il a créé bénévolement cette pièce de respirateur qui peut manquer parfois, une pièce donc en 3D, et elle pourrait être reprise par les hôpitaux en Nouvelle-Aquitaine.
Chez Michelin, vous vous êtes aussi attaché à fabriquer d'autres pièces dont les soignants ont besoin aujourd'hui. Je pense aux masques, aux visières. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose que vous ne fabriquez pas habituellement.
Oui, vous avez tout à fait raison. Nous avons différentes équipes qui travaillent sur chacun de ces projets. Nous avons, par exemple, la semaine dernière, livré plus de 500 visières dans deux hôpitaux, principalement à Lyon et à Paris. Et nous continuons à fabriquer. Là aussi, nous acheminons vers des milliers de pièces que nous serons capables de fournir dans les semaines qui viennent.
Alors, vous restez quelques minutes avec nous encore. Et vous allez voir que, décidément, en France, on sait se mobiliser quand on a besoin de nous. Bonjour Yannick Robichon.
Bonjour.
Vous êtes, vous, le dirigeant de la société DDLG, société de décolletage de la Garenne, hein, dans l'Orne. Votre entreprise, depuis le début de la crise, on peut le dire comme ça, tourne 7 jours sur 7 et H24. Et alors, vous aussi, vous allez fabriquer des pièces pour les respirateurs. 8000 pièces, c'est ça?
Exactement, 8000 pièces que l'on a lancées en fabrication mardi dernier et qui seront livrées d'ici moins de 15 jours.
Oui. Qui est-ce qui vous a contacté? C'est un client suisse, je crois, le premier qui a fait appel à vous?
Oui, alors petite précision, on est dans le Doubs, pas dans l'Orne. Ah. Et donc le Doubs est assez proche de la Suisse. Et c'est vrai que dans notre métier, ben, on est pas mal en horlogerie, aussi en médical et puis les industriels locaux. Et ben, c'est surtout grâce à la présence de pas mal des effectifs que j'ai, que je tiens à remercier, parce que c'est pas évident de se mobiliser. Alors qu'on a une partie, certes importante, mais une partie seulement qui concerne le médical. Et ce client avec lequel on travaille depuis assez peu de temps finalement, nous demande une série spéciale en précisant bien qu'il s'agit pour un de ses clients à lui dans la Formule 1 qui a changé ses lignes de production pour faire des respirateurs médicaux. Et nous, on fait des pièces de connectique qui sont extrêmement précises, extrêmement fragiles, qui demandent une mise en œuvre particulière. Alors, c'est pas de la 3D, c'est de l'enlèvement en matière, mais on utilise la 3D pour faire sortir les pièces pour pas qu'elles se choquent, des choses comme ça, voilà. Mais on reste dans un métier traditionnel, finalement, d'usinage.
Oui, effectivement, Aurélien en parlait tout à l'heure, hein, il y a quand même 7 écuries de Formule 1 qui se sont retroussées les manches pour participer à un consortium et se mettre à fabriquer également ces fameux respirateurs. La commande que vous avez eue, elle doit être prête pour le 20 avril, je crois, mais vous avez décidé d'anticiper, hein, d'essayer d'aller un peu plus vite.
On a décidé d'anticiper. Avec les personnes qui sont là, alors il fallait s'organiser pour les questions de garde d'enfants, etc., mais on a trouvé à s'organiser. Et puis, donc, on fait tourner 7 jours sur 7 et H24. Voilà. Ouais.
Vous êtes aussi, et c'est important de le dire, impliqué dans la fabrication de ce qu'on appelle les chambres implantables. Alors, je crois que si on veut simplifier, on va expliquer que ce sont des petits dispositifs qui peuvent faire gagner beaucoup de temps aux soignants dans le traitement d'autres pathologies, parce que ce sont des petits dispositifs qu'on peut mettre sous la peau et qui permettent, évidemment, en ces temps de crise, d'aller plus vite.
Exactement, ça permet l'injection dentalgique de façon plus importante. Et c'est peut-être un peu ce qui est compliqué dans la période actuelle, parce que le médical s'occupe une partie de mon parc, une partie des équipements, mais pas tout. Et pourtant, on ne sait pas faire tourner ça si on ne fait pas tourner le reste. C'est assez compliqué, les choses sont très imbriquées. Ce sont les mêmes personnes qui vont contrôler sous binoculaire de façon très précise des pièces pour l'horlogerie ou pour le médical. Il n'y a pas de différenciation, si vous voulez. C'est ça qui est un peu juste. En revanche, ce qui est vrai, c'est que pour le médical, il faut un ensemble de certifications, de normes, passer un certain nombre d'audits, et ça, on l'a fait depuis longtemps.
José Cocovi, vous, effectivement, c'était pas un secteur auquel vous étiez habitué. Hein. Quand on est dans le pneumatique, on n'a pas l'habitude de travailler avec le médical. Il a fallu s'adapter, là aussi?
Oui, absolument. Déjà, nous avons tout de suite vérifié toutes les pièces qui étaient à destination du corps médical. Nous avons vérifié que les matériaux étaient autorisés, certifiés. Et une fois qu'on a eu ces accords-là, nous avons travaillé avec les différents organismes comme le CEA, la DGA ou la PAV, à qualifier les différents produits qu'on était amené à faire. Donc toutes les qualifications ne sont pas terminées, elles sont encore en cours.
Est-ce que vous pensez que ça va considérablement changer votre mode de fonctionnement à l'avenir? Est-ce que Michelin peut finalement envisager aujourd'hui de construire d'autres produits auxquels il n'avait pas finalement vocation au départ?
Vous savez, depuis quelques années, Michelin est en train de développer son activité au secteur connexe aux pneumatiques, et ça a été déjà abondamment communiqué. Bon, il se trouve que c'est une division classique de Michelin qui est sollicité aujourd'hui, parce que c'est nous qui possédons les moyens d'impression 3D industrielle. Mais effectivement, ces produits qu'on a été amené à développer en partenariat pourront trouver un terreau d'accueil dans les sociétés que nous avons créées ou que nous avons acquises ou avec lesquelles nous avons créé des joint ventures récemment. Absolument, il y aura des opportunités très importantes pour tous.
Oui, d'autres développements envisagés pour vous aussi, Yannick Robichon?
Je pense que le monde de demain sera assez différent. Moi, j'ai vraiment un mot d'ordre. Mon objectif, alors déjà, suis pas coté en bourse ni rien. Mon objectif, c'est de transmettre cette entreprise dans 20 ans, un indépendant, un groupe d'indépendants, et puis c'est tout. Ma raison d'être, c'est l'amour du métier, produire et vendre localement et devenir une entreprise zéro impact environnement. Moi, je crois beaucoup au produire localement pour vendre localement. Je trouve ça aberrant de vouloir faire le tour de la Terre à des pièces. Et si ça pouvait changer cet aspect-là, non pas que ce qui se fait à l'autre bout de la Terre, c'est pas bien. C'est juste que à quoi bon faire des milliers de kilomètres à des pièces, et c'est quand même mieux de pouvoir être proche, discuter directement avec ses clients, avec ses fournisseurs, de les rencontrer. Moi, j'ai vraiment à cœur à ce que mes fournisseurs soient accessibles en Zoé. Et je pense que le monde de demain sera peut-être plus local. On reviendra peut-être un peu plus à la raison.
Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été en direct avec nous. Et je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous joindre au 3921 pour témoigner, pour nous donner aussi votre avis sur ce que vous entendez. Et puis le hashtag Radio Ouverte, bien sûr, vous attend. Il est 13h39.
Europe 1.
Restez avec nous, on va voir qu'il existe aussi d'autres initiatives pour soutenir l'effort collectif avec des systèmes auxquels vous n'avez pas pensé, différents des respirateurs. À tout de suite.
Raphaël Duchemin.
Nous sommes tous impliqués à notre manière dans la guerre que nous livrons face au coronavirus et chaque effort compte, que ce soit en restant chez soi ou en travaillant pour aider les autres. Bonjour Stéphane Regnault.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président de Vigon, votre entreprise familiale est basée en Île-de-France. Et vous, alors vous êtes spécialisé dans les dispositifs à usage unique, dispositifs médicaux bien sûr. Vos systèmes sont utilisés en réanimation, ce ne sont pas des respirateurs, mais des dispositifs d'aide à l'assistance respiratoire, c'est-à-dire des systèmes plus petits.
Oui, en fait, nous faisons un certain nombre de produits qui servent en soins intensifs et en réanimation, en particulier un dispositif qui permet d'aider la respiration des patients et de leur amener de l'oxygène. Ça sert à tous les patients qui sont en respiration spontanée, c'est-à-dire qui n'ont pas encore besoin d'un respirateur ou qui n'ont plus besoin d'un respirateur. Et ça permet donc d'économiser quelque part des respirateurs qui sont des denrées rares.
Ce sont ces dispositifs qu'on appelle les CPAP, c'est ça, CIPAP, qui ont été inventés il y a une trentaine d'années. Très utilisés, vous le disiez, dans les systèmes, dans les services d'urgence, mais pas forcément bien connus par tout le monde.
Alors, c'était pas encore très connu dans les services de soins intensifs. La crise actuelle a permis de montrer que c'était des dispositifs qui pouvaient être très utiles. Ils sont de plus en plus utilisés en France et d'ailleurs partout dans le monde.
Oui, parce qu'on a bien compris que quand on est sur des cas sévères, on a d'importants problèmes respiratoires et donc on passe à l'assistance respiratoire. Mais avant, il y a des paliers. Et donc, vos dispositifs peuvent aider la personne qui commence à avoir des difficultés à respirer à mieux respirer.
Tout à fait. En fait, tant que le patient est ce qu'on appelle en respiration spontanée, c'est-à-dire qu'il respire de lui-même, ce type de CPAP de Boussignac, est très utile. À partir du moment où le patient ne peut plus respirer par lui-même, là, il faut l'intuber, il faut utiliser un respirateur qui va quelque part respirer à sa place, insuffler et expirer de l'air.
Alors avant la crise, vous nous disiez que vous en fabriquiez 6 000 par mois, vous êtes passé à 10 000 et là l'objectif je crois que c'est carrément 16 000 de ces dispositifs.
Alors cette semaine on est à 10 000 par semaine et la semaine prochaine on devrait passer à 16 000. Ce qui nous limite pour l'instant c'est la formation des équipes, c'est quand même un travail précis et il faut former les équipes avant de pouvoir les faire travailler à la fabrication.
Ouais,
la chance que l'on a, c'est...
Vous n'êtes pas assez nombreux, on manque de bras en clair.
On manque de bras formés surtout, c'est-à-dire que d'abord, c'est vrai qu'il y a un certain un absentéisme dans les ateliers, parce qu'il y a des gens qui doivent garder leurs enfants, il y a un certain nombre de gens qui sont potentiellement malades, donc qui sont isolés. Il manque un petit peu de bras et d'autre part ces bras sont utilisés à la production de nombreux produits et là on réorganise la production pour justement produire beaucoup plus des quelques produits qui sont utilisés en réanimation et donc il faut former ces bras de manière à pouvoir les changer de production.
Vous restez en ligne avec nous, je voudrais qu'on accueille ensemble Antoine Berck. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez le Club Sandwich Studio, qui est une agence de design. Et alors, vous avez développé le mur Minimal Universal Respirator, qui est appuyé par un collectif de médecins. Vous avez développé en moins de 2 semaines un prototype en open source avec le minimum de matériel possible. Comment est-ce que vous avez fait ?
Alors, déjà, je co-dirige effectivement ce studio de design. Et si vous me permettez juste de revenir un petit peu effectivement sur l'histoire, le 16 mars, en fait, après le discours du président, on s'est retrouvé effectivement à quatre face à une question, en se demandant, avec nos savoir-faire, avec nos compétences, qu'est-ce qu'on peut faire pour participer à la mobilisation générale. Et comme on est spécialiste un peu dans différents domaines que sont l'ingénierie, l'électronique, les logiciels embarqués et le développement industriel, la réponse, elle n'a pas tardé à arriver. Et on s'est senti effectivement capable de concevoir, donc avec ce qu'on avait sous la main, confinement oblige, et dans nos ateliers, l'appareil qui manque cruellement à la France aujourd'hui, qui est un respirateur artificiel d'urgence.
Mais attendez. Qu'est-ce que vous aviez sous la main ? Parce que moi, c'est ça qui me perturbe. Je me dis, mais comment on peut fabriquer un respirateur low-tech ? C'est possible.
Notre bagage et nos compétences font que ce qu'on avait dans les tiroirs, hypothétiquement, était utilisable. Et on a fait cette démonstration en 2 semaines en mettant au point ce respirateur d'urgence avec du matériel, comme on dit, sur étagère, accessible en fait très largement partout dans le monde et qu'on avait par chance en stock.
Donc cette démarche, elle est vraiment, on peut le dire, une démarche citoyenne. Hein. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui ? De quoi est-ce que vous avez besoin ? Parce que vous avez fait cette démonstration, est-ce que c'est validé ? Est-ce que c'est utilisable ?
Alors déjà sur le point de la démarche citoyenne, au départ on était 4, aujourd'hui c'est une équipe qui s'est très largement élargie. Comme vous l'avez dit, on a commencé effectivement avec des médecins, mais pas que, on a aussi des scientifiques, des ingénieurs, des entrepreneurs. Aujourd'hui on est même soutenu par une ONG internationale, ACTED. Oui. On a même le soutien du Centre National d'Études Spatiales. Ce qui nous manque aujourd'hui, enfin pour valider effectivement le dispositif, c'est des retours des médecins. On a toujours focalisé sur ce que les médecins attendaient. On a besoin de plus de médecins pour mettre dans leurs mains notre dispositif et qu'on puisse avoir leur retour et savoir comment finir de valider ce dispositif.
Vous avez déjà effectué des premiers tests avec des médecins qui se sont portés volontaires pour mettre en service ce prototype ?
On a la semaine dernière effectué 2 tests, on a testé avec des ingénieurs biomédicaux le dispositif pour pouvoir enregistrer des courbes, des valeurs et effectivement pouvoir continuer le développement. Et on a effectivement commencé à mettre dans les mains de médecins le dispositif pour savoir si c'était bien ce qu'ils attendaient. Voilà.
Et la réponse est positive.
La réponse est encourageante.
En tout cas, c'est une initiative supplémentaire et elles sont intéressantes parce qu'elles sont nombreuses. Il n'y a pas que les gros projets hein, comme ceux des consortiums dont on parlait. Je voudrais qu'on parle aussi, si vous le voulez bien, et qu'on accueille ensemble Antoine Motte qui est en ligne avec nous sur Europe 1. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Vous êtes le patron de Machine 3D, de Construction 3D. Vous êtes, vous, basé à Valenciennes. Alors, je crois qu'on vous a demandé, vous, de créer un système pour diviser le flux des respirateurs, une sorte de Y, en fait, pour partager l'air dans les respirateurs.
Exactement. En fait, c'était une demande d'un médecin sur la Belgique qui nous a sollicité pour essayer de diviser le flux d'air d'un seul respirateur pour utiliser un respirateur pour 2 personnes. Alors, c'est clairement un dispositif extrême, un dispositif d'urgence, de guerre, vu qu'on comprend bien qu'un respirateur pour 2, c'est pas aussi bien qu'un respirateur par personne. Et donc, on a pu très rapidement, grâce à l'impression 3D, réaliser et tester un diviseur Y, et on a mis en partage le fichier. ce qui permet à tous les makers de l'imprimer pour peu que les hôpitaux le demandent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si les collègues précédents qui ont témoigné réussissent à déployer leur solution, il ne faut pas utiliser la mienne, mais à défaut, ben, on peut réussir à sauver peut-être plus de personnes en divisant le flux avec toutes les contraintes que ça apporte, quoi.
Oui, ça n'est pas non plus votre métier de base, hein, Antoine, hein.
Tout à fait, tout à fait. Nous, on est dans l'impression 3D générale et on a suivi les demandes des médecins. Et on a beaucoup de demandes d'autres hôpitaux qui se préparent à l'afflux de et à être dépassés en fait dans le nombre de respirateurs à disposition. Mais on préférerait que ce soit pas utilisé.
Oui, donc s'il n'y a pas assez de respirateurs, clairement, avec ce système, ce Y, on pourra faire passer l'air, diviser l'air pour deux patients et utiliser un même respirateur pour deux patients, ce qui est toujours, pardonnez-moi l'expression, mieux que de ne pas en avoir, hein, de respirateur.
C'est ça, mais bon, voilà, c'est beaucoup plus de surveillance, des protocoles très compliqués, et évidemment, ce n'est pas des solutions qui sont validées et qui sortent complètement des clous habituels, quoi.
Je voudrais qu'on regarde un petit peu ce qui se passe aussi du côté de l'APHP, Aurélien, pour essayer de gérer justement la saturation des hôpitaux. Elle réfléchit manifestement à tester l'oxygénation de patients à domicile.
Oui, c'est ce qu'a annoncé Martin Hirsch, hein, le président de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. C'est présenté comme une procédure légère baptisée Covidum O2. Donc il existe encore quelques inconnus sur sa mise en place, mais ce serait destiné à des patients stables, déjà hospitalisés dans des services de pneumologie et non pas en réanimation, donc pas pour des patients intubés, endormis, mais pour ceux qui ont besoin d'un faible débit d'oxygène. Et donc les faire sortir de ces services pour rentrer chez eux permettrait évidemment de gagner des lits.
Et puis je voudrais qu'on salue une initiative qu'on connaît bien à la France Bouge, qui a été trophée Europe 1. Le feu vert a été donné à un essai clinique avec du sang de ver marin.
Oui, cet essai clinique consiste à administrer à 10 malades du Covid-19 une solution issue du sang d'un ver marin, ver qui a des propriétés oxygénantes. L'essai va pouvoir démarrer après l'accord du comité de protection des personnes. Ça a été validé il y a 48 heures. La société, c'est Emarina de Franck Zal. Elle possède sa propre ferme d'élevage de ver marin en Vendée et dispose de 5000 doses immédiatement disponibles, avec la capacité d'en produire assez rapidement trois fois plus. Donc on peut parler d'un respirateur moléculaire qui sera utilisé pour là aussi tenter d'éviter que les patients arrivent trop rapidement en réanimation.
Voilà, l'idée c'était effectivement de vous montrer aujourd'hui hein, qu'il y a énormément d'entraide qui se met en place en France pour essayer de pallier la pénurie de respirateurs, de ces dispositifs d'assistance respiratoire. Merci à tous d'avoir participé avec nous à cette France qui se bouge et qui se mobilise. Il est 13h50. Restez avec nous, on va retrouver comme chaque jour notre expert et vos questions. Rendez-vous avec l'avocat d'Europe 1, Roland Pérez.
Chemin.
13h56, nous sommes ensemble jusqu'à 14h et vous le savez, chaque jour, nous retrouvons l'expert d'Europe 1, l'avocat d'Europe 1, Roland Pérez est avec nous pour répondre à toutes vos questions. Bonjour Roland.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
On entend les petits oiseaux derrière vous, c'est vrai que ça fait du bien,
les
Roland.
Petits oiseaux, je me suis mis dans le jardin aujourd'hui.
Vous avez bien fait, vous avez bien fait. On est confiné comme on peut. Hein. Et quand on entend les oiseaux, c'est quand même formidable. On a quelques questions pour vous, postées sur le hashtag Radio Ouverte, notamment celle de Béatrice qui nous dit « J'aimerais continuer à payer la nourrice de mes enfants pendant le confinement, même si elle ne travaille pas. » Est-ce que j'en ai le droit, tout simplement, Roland ?
Oui, absolument. En fait, il y a plusieurs solutions. La première solution, si c'est possible pour notre auditrice, et c'est la plus simple, mais le plus souvent la plus coûteuse, c'est de payer et de déclarer le même salaire et les mêmes heures de travail qu'un mois travaillé habituel. Et dans ce cas-là, notre auditrice va percevoir les aides libre au choix du mode de garde, vous savez, qui sont habituelles, et même bénéficier du crédit d'impôt. Et puis la deuxième solution, on le sait aujourd'hui, on l'a répété, c'est la solution qui a été également préconisée par le gouvernement, c'est la possibilité de mettre la garde d'enfant sous chômage partiel. Et dans ce cas-là, eh bien, 80% du salaire peut être payé, salaire net peut être payé, ou quasiment la totalité du salaire. Et c'est comme un don solidaire qui va être fait pour les 20% restants à la nounou si notre auditrice veut la payer totalement. Donc les deux possibilités existent pour notre auditrice.
Très bien. Autre question pour vous, Laurent, c'est Jules qui vous la pose. J'ai été contrôlé, j'ai reçu une contravention parce que je suis sorti faire mes courses pendant plus d'une heure. Ont-ils vraiment le droit de me verbaliser ?
Alors non, il n'y a pas de limitation de durée hein, pour les achats de première nécessité. Ce qui est limité à une heure depuis le 24 mars, ce sont les sorties, vous savez, pour promener les enfants ou faire du sport dans un rayon d'un kilomètre autour de chez soi. Cela dit, hein, même pour les courses et pour les autres déplacements, il faut maintenant noter l'heure de sortie. C'est très important. On note l'heure de sortie de son domicile sur la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire qui peut être, on le sait maintenant, de façon numérique. On peut la pré-remplir. Et donc, si on compte faire sortir pour soit promener ses enfants, soit faire un jogging et puis en même temps faire quelques courses par exemple, c'est donc mieux de le faire en même temps et pour cela, nul besoin de remplir deux attestations. Il faut cocher deux cases sur le même document. Donc cela permettra de tout faire dans le même temps de déplacement. En revanche, pour répondre vraiment à notre auditeur, non, les courses ne sont pas limitées en termes de temps, si ce n'est qu'il faut essayer de les faire le plus proche de chez soi, ne pas aller, si c'est possible, à des kilomètres et des kilomètres, et il n'y aura pas de difficulté si on a bien noté l'heure de départ.
Voilà pour la réponse à Jules qui nous a écrit sur le hashtag Radio Ouverte. On se retrouve, nous, Roland, dès demain, juste avant 14h. Vous pouvez continuer à nous laisser vos questions au 39-21. À demain, Roland. À demain, Aurélien.
À demain, Raphaël. Fleureau,
on se retrouvera pour parler des initiatives qui voient le jour en France pour aider les personnes âgées et isolées. Et vous allez voir qu'il y en a. 13h59.